Et nous allons lire l'épître de Jacques. Nous allons lire le premier chapitre du verset 18 au verset 25. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Prions. Nous voulons, Seigneur, encore une fois de plus, porter nos regards sur ta parole et sur les dimensions de ta parole, parce que nous voulons, Seigneur, que ta parole devienne devienne véritablement celle qu'elle est, cette semence plantée dans nos cœurs, ce guide, cette autorité dans nos vies. Et nous voulons apprendre un peu plus, Seigneur, ce matin, sur la manière dont nous pouvons grandir. Et nous pouvons grandir grâce à ta parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette parole soit source de maturité spirituelle pour nous? Seigneur, conduis-nous dans cette méditation. Le peu, Seigneur, qui est donné, oui, Seigneur, je le reconnais, le peu qui est donné, Seigneur, soit fructifié par le Saint-Esprit dans le cœur de chacun. Fais-nous cette grâce et à moi-même aussi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, au début de l'année, j'avais proposé que nous prenions comme engagement cette année de vraiment être à l'écoute de Dieu à travers sa parole. Souvenez-vous de ce texte de Deutéronome, chapitre 6, où il dit « Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu est un. » Et j'ai pris ce texte en exploitant le contexte autour de ce texte pour montrer que, en fait, l'écoute dont le Seigneur parlait, c'était l'écoute de sa parole, de ce qu'il dit, Et dans ce texte-là que nous avions lu, on a bien compris que, en réalité, cette parole ne peut vraiment devenir puissante qu'à travers l'enseignement de cette parole. Ce matin, j'étais frappé par, dans mes réflexions, dans ma méditation, dans mes lectures, j'ai été frappé par la manière dont l'apôtre Jacques, dont Jacques va exploiter la compréhension de l'importance d'utiliser la parole de Dieu. Et j'ai vu à travers cette façon de présenter une dimension où il est véritablement en rapport avec la maturité chrétienne. La manière dont nous lisons la Bible, la manière dont nous travaillons avec notre Bible peut témoigner de nous si nous avons la maturité spirituelle ou pas. Et la parole de Dieu peut être aussi un moyen par lequel on va aller de plus en plus loin dans la maturité spirituelle. N'oubliez pas, Dieu vise en nous la maturité. Souvenez-vous, 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, convaincre dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit utile, propre à toute œuvre bonne. L'homme de Dieu. Le but de la parole qui nous est donnée, c'est que nous puissions grandir, qu'on quitte la phase de l'enfance pour atteindre la phase de la maturité, c'est-à-dire la phase d'homme ou de femme. C'est le but. La parole nous est donnée pour que nous puissions grandir et que nous puissions de plus en plus connaître Dieu. Et je vous rappelle encore que notre façon de grandir dépend de la qualité de la relation que nous avons avec Dieu. Plus nous avons l'intimité avec Dieu, plus notre intimité est grande avec Dieu, plus nous grandissons. C'est un peu normal. C'est comme si nous avons dans une maison quelque chose qui vient encombrer la maison. Pour que cette chose qui encombre la maison puisse être changée, il faut la vider. Il faut enlever pour mettre quelque chose qui vient le remplacer. Et si nous sommes de nature pécheurs, c'est ça que la Bible dit. Il faut que le péché soit extirpé de nous et que le Seigneur trouve de plus en plus une place dans nos cœurs et dans nos vies. Et plus il trouve une place dans nos cœurs et dans nos vies, plus nous grandissons. Parce que nous grandissons selon lui. Évidemment, la maturité spirituelle dont on parle, c'est la maturité selon Dieu. Hein. Ce n'est pas la maturité dans le sens que les gens vont observer qu'on est devenu calme, sage, gentil, etc. Ce n'est pas ça. C'est la maturité selon Dieu. C'est-à-dire cette aptitude à connaître Dieu, comme disait l'apôtre Jean, vous connaissez celui qui est dès le commencement. À connaître Dieu d'une manière personnelle, mais aussi à le servir de la meilleure manière. De le servir comme un père, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'assumer la responsabilité de prendre en charge les autres, de les faire grandir comme nous-mêmes on a grandi. Être aussi, ça touche aussi le caractère spirituel. Un chrétien mûr, c'est un chrétien qui va manifester les caractères qui étaient en Christ. Sa patience, sa miséricorde, son amour, sa maîtrise de soi, etc. C'est quelqu'un qui va de plus en plus réfléchir comme Jésus réfléchissait. Qui va de plus en plus rechercher les valeurs qui étaient en Jésus. Ce matin, je trouve dans ce texte de Jacques, au chapitre 1, que nous venons de lire, quelques éléments qui peuvent nous aider à peut-être encore plus approfondir notre réflexion sur cette marche vers la maturité et en même temps, sur la parole de Dieu, comment la vivre, comment aller de l'avant avec. C'est parce que je n'ai pas donné le texte, mais le contexte de ce texte dit que il y a le risque que nous puissions nous tromper. Certains chrétiens se font des illusions dans leur marche spirituelle. Ils croient qu'ils avancent. Ils croient qu'ils sont spirituels alors qu'ils ne le sont pas. Ils marchent, ils avancent et pensent qu'avec tout ce que nous avons, la parole de Dieu, la vie chrétienne, tout va bien. Je suis impec. Si nous étions si bien que ça, évidemment, on aurait une église avec moins de soucis possibles. Il n'y aurait pas des conflits, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas des incompréhensions. Le contexte de l'épître de Jacques montre très bien que justement, dans la communauté à laquelle s'adresse Jacques, il y avait des problèmes. Nous sommes au chapitre 1, mais quand vous lisez le chapitre 4, il dit, mais d'où viennent ces tumultes? D'où viennent ces querelles? D'où viennent ces conflits entre vous? N'est-ce pas de la chair, de votre chair qui est en vous? Donc, effectivement, c'est des gens spirituels, mais qui se battent. Chapitre 3, il évoque la sagesse. Il parle de deux sortes de sagesse. Il dit, il y a des gens qui sont sages selon la sagesse d'en haut, et puis il y a des gens qui sont sages selon la sagesse d'en bas. Et il dit, la sagesse d'en bas est caractérisée par le zèle amer. Le zèle amer, c'est-à-dire le fait qu'on veut travailler, mais on veut travailler pour montrer aux autres qu'on travaille. On veut travailler, mais on veut travailler de manière à ce que les autres puissent vous admirer. Il y a une dimension charnelle. Il dit que c'est caractérisé par les disputes. C'est caractérisé par des conflits. Alors que la sagesse d'en haut est caractérisée par un esprit apaisé, un esprit de conciliation, un esprit plutôt qui a la compassion et qui recherche ce qui glorifie Dieu. Vous voyez ? C'est pour, je donne tout ça pour montrer le contexte dans lequel je puise ce texte. Vous voyez, la direction dans laquelle Jacques prend, c'est celle-là. Attention, on peut avoir la parole de Dieu, on peut vivre dans, on peut lire la parole de Dieu et pourtant être complètement dans l'erreur. On peut se tromper. Et de quelle façon on se trompe ? On se trompe en général en se faisant illusion à soi-même. Alors, trois choses que Jacques propose ici, trois dimensions pour pouvoir avancer avec la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu une source pour moi, pour que je puisse atteindre la maturité spirituelle. Trois choses, et c'est sur ces trois choses-là que nous allons nous arrêter brièvement. Je ne fais pas la prétention d'épuiser tout ce qu'il y a à dire, parce que je vous assure, il y a beaucoup à dire. Mais je vais juste survoler en essayant de faire en sorte qu'il y ait quelque chose que vous pouvez capter pour votre réflexion personnelle par la suite. Le verset 19. Le verset 19 dit... Verset 19 à 21. « Sachez, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, regardez là, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Première chose, recevoir la parole de Dieu. Ça, c'est une première chose sur laquelle nous avons à nous évaluer et à nous positionner et à nous questionner. Comment je reçois la parole de Dieu? Recevoir la parole de Dieu, ici, il est question de la recevoir comme une semence qui a été plantée en nous. C'est ça le verset 21, n'est-ce pas? Comme une semence plantée en nous. Et plantée en nous, c'est-à-dire plantée dans un cœur qui veut porter du fruit. Vous connaissez la parabole en Matthieu 13, des différents cœurs. Et ce cœur ici, c'est le cœur de quelqu'un qui veut porter du fruit à la gloire de Dieu. Le cœur d'un homme disposé, un homme, une femme bien disposée. Donc le point de départ, dans la manière dont on reçoit la parole de Dieu, c'est évidemment le salut en Jésus-Christ. C'est évidemment cette parole qui vient en nous, qui va être plantée comme une semence. Et comme toute semence, elle doit germer, elle doit sortir et porter du fruit. Ça, c'est le but. C'est pour ça que je vous ai dit que la parole, elle nous est aussi donnée pour que nous puissions grandir, puissions aller de plus en plus loin. Et ce fruit, évidemment, le fruit de la parole qui a été plantée dans nos vies est visible. Elle est visible. Elle est visible à travers la vie transformée. Quelqu'un qui était sans Christ avant et qui devient chrétien, ça se voit. Ses centres d'intérêt changent. Son regard sur les autres change. Il a de la compassion pour les âmes perdues. Il veut parler de Jésus. Il regarde le monde non plus selon une philosophie, selon Aristote, Platon. Non, il regarde le monde selon ce que dit la Bible. Et si la Bible dit « le monde est perdu », il est d'accord avec ça. Quelqu'un qui a la parole qui a été plantée en lui et qui a germé pour porter du fruit, ça se voit. Il s'intéresse à la Bible. Il a une bonne connaissance de la Bible et il continue à apprendre. Il veille sur son caractère, sur la conduite, sur sa conduite, sur son comportement. Il montre de la compassion. Et ce texte insiste cependant, vous le voyez, recevez avec douceur. Recevoir la parole de Dieu, accueillir la parole, cette graine qui a été plantée en nous, nous ne pouvons pas l'accueillir, nous devons l'accueillir avec, il y a une qualité qu'on doit mettre dedans. Il y a une façon de le faire. On ne l'accueille pas n'importe comment. Pour recevoir la parole de la meilleure manière, il faut qu'on soit prompt à écouter, verset 19, lent à parler, lent à se mettre en colère. Trois choses qui peuvent devenir des obstacles pour que nous puissions accueillir la parole de Dieu. Prends à écouter. Je ne peux pas grandir spirituellement si je ne suis pas en mesure de tendre mon oreille pour écouter ce que dit le texte biblique, ce que dit la parole de Dieu. Si, pour moi, la parole de Dieu, j'entends rapidement et les choses qui titillent mon oreille, que j'aime bien, mais que pour le reste, ça ne m'intéresse pas trop, alors il se passe quelque chose, c'est que je ne pourrai pas laisser la parole se développer en moi et me faire grandir. Être prompt à écouter. Quelqu'un qui est prompt à écouter, c'est quelqu'un qui va rechercher à se mettre dans des dispositions d'écoute de la parole de Dieu. Regardez un exemple dans la Bible. C'est Marie. Lorsque Jésus va visiter les deux sœurs, Marie et Marthe, Marthe va être occupée à travailler pour apporter la nourriture à Jésus. Mais Marie va aller s'asseoir au pied du maître et va aller écouter le maître. Et lorsque Marthe se révolte, et elle a raison, parce que c'est pas possible, on ne peut pas quand même la laisser seule. On devait s'y attendre à ce que Jésus dise, mais enfin, allez, dis, Marie, allez, va aider ta sœur. Mais voilà que Jésus va donner une réponse étonnante. Il va dire, Marthe, tu t'agites pour peu de choses. Une chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Quelle était cette part-là? C'est de s'asseoir au pied du maître et de l'écouter. Écouter au pied du maître, ça veut dire écouter avec humilité. Pas en disant, Seigneur, tu vas parler, je vais discuter avec toi. Tu vas parler, moi je vais te dire ce que moi j'en pense. Voilà mon opinion, voilà mon point de vue, Seigneur. L'éternité, oui, toi tu dis ceci, mais moi je pense cela. Non, elle s'assoit et elle écoute. Elle écoute comme un enfant. Elle écoute. Soyons prompts à écouter la parole de Dieu. Soyons prompts à ne pas nous débattre avec la Bible. Mais juste à l'écouter, à dire, Seigneur, je vais t'écouter. Qu'est-ce que tu me dis? Et prendre ce que Dieu nous dit. Le prendre, pas le discuter. Le prendre, tout simplement. L'accepter. Prompt à écouter, lent à parler. Nous parlons beaucoup. Devant la parole de Dieu, nous discutons beaucoup. Nous sommes souvent très intelligents. Plus intelligents même parfois que la Bible elle-même. Nous disons beaucoup de choses. Nous prenons un texte et nous commençons à nous balader. Waouh ! Lent à parler. Quelqu'un qui est lent à parler permet que les autres s'expriment plus, que les autres puissent dire le fond des choses. Celui qui est lent à parler laisse la parole aller plus loin dans ce qu'elle a à lui dire. Soyons lents à parler. Donnons-nous un espace de réflexion pendant que la parole nous parle. Pendant que les autres nous parlent de la parole de Dieu, donnons-nous un espace de réflexion. Si nous parlons, quelqu'un qui parle ne peut pas réfléchir en même temps. Donc, si nous nous donnons cet espace de silence, ça nous permet de réfléchir à ce qu'on est en train de nous dire. Lent à parler. Lent à parler, c'est aussi laisser cet espace qui montre la considération pour la parole de Dieu et pour l'autre qui me parle de Dieu. Ne nous précipitons pas. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi lent à la colère. La colère, c'est quelque chose qui nous caractérise tous. On est dans un monde en colère. On est dans un monde où la révolte est toujours tout près. On est dans le monde de la contestation, de la revendication. On est dans le monde où on ne se laisse pas faire. Un monde où on est toujours prêt pour la bagarre. Lent à la colère. Face à la parole de Dieu, face à tout ce qui me choque avec la parole de Dieu, face à tout ce qui me, qui me rebutent dans la parole de Dieu. Face aux enseignements, aux prédications, aux choses qui parfois... lent à la colère. Ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère, mais réfléchir. La colère de Dieu, verset 20 dit, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Quelle que soit la manière dont on veut résoudre un problème, même dans l'Église, la colère ne fait pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas en se fâchant, ce n'est pas en entrant en conflit par la colère qu'on peut résoudre les choses. La colère est un mauvais conseiller. C'est un conseiller qui peut empoisonner notre existence. J'aimerais simplement vous mettre devant vous ce texte de Proverbes chapitre 14, verset 29. J'aime bien le livre des Proverbes. Je vous conseille de le lire souvent, parce qu'il est très riche en paroles, en réflexions. 14, 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Les gens qui s'énervent vite, en général, ils font des erreurs. Quel comportement ai-je devant la parole de Dieu? Suis-je prompt à écouter, à considérer, à faire silence, à dire « je prends au sérieux, je prends à cœur, qu'est-ce que Dieu veut me dire là ?» Si je prends le temps, suis-je lent à parler? Je dis, je ne vais pas vite m'exprimer, je ne vais pas vite dire ce que je pense, je ne vais pas vite dire mon opinion, je veux d'abord écouter. Est-ce qu'on est prêt à ne pas prendre l'attitude du monde qui est de se révolter, de s'énerver, mais plutôt de rester calme? Pour que la parole soit aussi accueillie et puisse produire du fruit dans nos cœurs, je dois aussi préparer mon cœur. Mon cœur est comme un jardin. C'est ça que le texte dit. Hein, le verset 21 dit ça. Le texte, mon cœur est comme un jardin. Un jardin dans lequel il peut y avoir des mauvaises herbes. Et mon travail à moi, c'est d'arracher les mauvaises herbes. Et croyez-moi, avant de planter, l'activité consiste à débroussailler, à enlever les mauvaises herbes, est plus difficile que celui de planter. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que ça se fait dans la douleur. Le Seigneur veut que nous enlevions les mauvaises herbes dans nos cœurs. Toutes ces mauvaises herbes qui nous empêchent d'accueillir la parole de Dieu. Le Seigneur veut que nous les enlevions. C'est notre boulot. C'est notre tâche. Les mauvaises herbes ici, les souillures, la souillure, la méchanceté, le débordement de méchanceté. Voilà des mauvaises herbes qui viennent parfois remplir notre cœur de façon à rendre difficile l'éclosion de la parole dans nos cœurs. Vous connaissez cette semence qui est tombée sur plusieurs terres. Vous avez vu celle qui est tombée sous les épines. Elle ne va pas grandir. Elle est coincée à cause des épines, à cause des mauvaises herbes. Si je veux grandir dans ma façon de vivre la parole de Dieu, je dois me débarrasser des choses, me débarrasser des mauvaises herbes, la souillure. La souillure, c'est tout ce qui me rend impur devant Dieu. Et ça commence avec le péché, avec d'abord la pensée. Toutes les pensées en moi qui me rendent sale devant Dieu. Qui font que devant Dieu, je suis sale. Et attention, ce n'est pas les autres qui vont me le dire. Hein. C'est moi-même, hein. Ma conscience va me le dire. Hein. Moi, chaque fois que j'ai mal agi, quand j'ai mal fait quelque chose, ou quand j'ai eu des mauvaises pensées, et que je me présente devant Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire, hey, « oh, non, hein. C'est tout seul. Hein. » Je dis, « Ouh, Seigneur, là, j'ai eu une très mauvaise pensée pour tel frère. ou pour telle chose, Seigneur, pardonne-moi d'abord. On ne sait pas parler avec Dieu quand on le respecte, en sachant qu'on a mal fait et qu'on va lui parler. On ne sait pas le faire. Débarrassons-nous de saleté dans nos pensées. Dans nos pensées. Débarrassons-nous de saleté autour de nous. Tout ce qu'on on peut hériter. Et puis la méchanceté. Voyez, moi j'aime bien le débordement. Dans mon texte, à moi, c'est les excès de colère, les excès de méchanceté. Ce n'est pas une méchanceté simplement un acte ponctuel. C'est véritablement ce qui finit par sortir de notre contrôle. Par exemple, je me mets à me disputer avec Rebecca. Ok, je me calme un peu, Rebecca. J'aime pas ce que tu fais. Ah, ça monte. Ok, ok. Je vais faire un petit tour, je vais voir Adrien. Ça va, Adrien? Ça va bien? Je reviens. Rebecca, tu m'as énervé. Tu fais, ah, je reviens. Et puis, à la longue, ça finit par devenir quelque chose de tellement, tellement grave que ça sort, ça déborde. Alors, je me mets à dire des choses que je n'ai pas voulu dire à Rebecca, mais que je vais lui dire parce que je suis en colère. Et je commence à lui faire des choses que je n'ai pas voulu au départ et que si j'étais conscient, si j'étais calme, j'aurais jamais fait. Mais que je commence à faire parce que je suis entré dans une zone que je ne contrôle plus. Vous voyez? Les chrétiens doivent éviter ça. On doit éviter ça. Parce que ça, ça nous empêche de pouvoir entretenir ce beau jardin et permettre que le que la parole puisse éclore et produire du fruit dans nos vies. Il y a une hygiène personnelle à tenir. C'est pourquoi j'aime bien ce texte avec le psaume 139, le verset 24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une voie. » Vous connaissez? Oh, c'est bien! Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Se laisser sonder par Dieu, c'est important. Avoir un moment dans son culte personnel où je m'examine pour mettre à l'épreuve mes actes. Mes amis, le plus difficile pour un chrétien, c'est pas de juger les autres. On a très facile. Juger le travail de quelqu'un d'autre, c'est facile. Juger, c'est que comment se comporte l'autre, c'est facile. Simon, je te juge, c'est facile. Mais, me mettre moi-même honnêtement devant Dieu et dire, en me regardant, Seigneur, waouh, là, il y a des choses qui ne vont pas chez moi. Se mettre sincèrement en face avec Dieu et reconnaître ses propres torts, c'est une démarche que les chrétiens ne savent plus faire. Le texte ici nous encourage à avoir cette démarche qui est de nous remettre nous-mêmes en question, d'être en mesure de se mettre devant Dieu et de dire, Seigneur, vraiment, en réalité, voilà telle difficulté que j'ai. Et si ce sont des difficultés, je l'ai toujours dit et je le répète, quand c'est des, il n'y a aucune difficulté que Dieu ne peut pas vous enlever. Mais il faut le demander. Si vous êtes colérique, Seigneur, délivre-moi de la colère. Si on est médisant, Seigneur, délivre-moi de la médisance. Si on est quelqu'un qui ne partage jamais, Seigneur, délivre-moi de ça. Tout ce que ma conscience, à la lumière de la parole de Dieu, me montre que c'est mal, je peux le confesser, y renoncer, demander l'aide de Dieu pour que ça disparaisse de ma vie. Je peux le faire. J'ai un Dieu tout-puissant. Il faut que nous puissions nous débarrasser des mauvaises herbes dans notre cœur, afin que la parole de Dieu prenne sa place. Première chose donc, recevez la parole. Recevoir la parole de Dieu, l'accueillir. Lui mettre la parole de Dieu dans des conditions où c'est possible pour elle de grandir en nous, d'éclore en nous. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, le verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettre en pratique la parole de Dieu. Voyez, pourquoi est-ce qu'on doit mettre en pratique la parole de Dieu? Parce que nous risquons de nous tromper avec des faux raisonnements. Parce que nous risquons de nous faire des illusions et prendre une mauvaise direction. Mettre en pratique la parole de Dieu. Je rappelle, Deutéronome 29, 29, pour certains c'est 29, 28, ça dépend de la version. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à vous et à vos enfants à perpétuité. Pourquoi ? Afin que vous pratiquiez toutes les paroles de la loi. Le but de Dieu, c'est ça. Il nous donne sa parole pour qu'on la mette en pratique. Ce n'est pas une parole juste pour écouter. Ce n'est pas une parole juste pour discuter avec. C'est une parole pour que nous puissions la mettre en action. Que nous puissions agir conformément à ce qu'elle nous demande. C'est ça le sens de mettre en pratique. Quand je mets en pratique ce que la Bible me dit, quand j'exécute ce que la parole de Dieu me demande de faire, automatiquement, je suis dans le bon. Mais si je ne mets pas en pratique, mais que je réfléchis, oui, en fait, Dieu dit, ne mentez pas. Ok, Dieu dit, ne mentez pas. Ok, ça veut dire que moi, quand je suis avec Yvette, et que je suis passé du côté de chez elle, et qu'elle m'a vu, et que... Et qu'elle va me reprocher de l'avoir d'être pas passé chez elle. Alors moi, je vais dire que c'est parce que j'étais pressé que je devais aller chez Paloukou. Mais c'est faux. Je vais pas chez Paloukou. Mais voilà. Là c'est pas un péché. Voilà. J'ai pas menti. Mais par contre, si du haut de la chair, je dis quelque chose qui est faux sur moi, là c'est grave. Vous voyez, là je raisonne. Là, je suis en train de raisonner et relativiser l'ordre que Dieu a donné. Si Dieu m'interdit de mentir, je ne dois pas mentir, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances. Et si je le fais, je demande pardon à Dieu. Et je demande la grâce de ne pas le refaire. Pratiquer la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en action. C'est vivre la parole de Dieu. Vous voyez, après avoir comparé la parole de Dieu avec une graine, ici, il va la comparer avec un miroir. Ok? Tu peux prendre la partie qui va... Voilà, merci. Donc, au verset verset 23. Parce que tu tentes de faire danser ça, alors je ne savais pas très bien. Le verset 23. Maintenant, la comparaison de la parole est faite avec un miroir. Avant, c'était une graine qui est plantée, etc. Et maintenant, c'est avec un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. Un miroir qui nous... À quoi ça sert, un miroir? Les femmes le savent mieux que nous. Hein, à se regarder. À se regarder. À s'examiner. Si je veux sortir... Et que j'aimerais quand même savoir comment je suis présentable. Je vais quand même me regarder au miroir pour regarder comment je suis. Mais je peux aussi me regarder très attentivement. Ça, c'est surtout les ados, n'est-ce pas, qui se regardent au miroir pour regarder s'il n'y a pas des traces de boutons là-bas, des petites choses que peut-être qu'on devrait peut-être veiller à ce que, on trouve un produit pour soigner parce que, bon. Le miroir, elle sert à ça. Elle me renvoie à mon image réelle. Réelle. Ne croyez pas qu'un miroir, si vous avez une bosse ici, un miroir va dire, oh, je cache ta bosse pour te montrer dans ton autre visage. Non, si tu as une bosse là, le miroir va te montrer la bosse. C'est comme ça. Elle ne va pas te cacher. Le miroir n'est pas là pour cacher. La parole de Dieu, elle est là pour nous dire qui nous sommes réellement. Elle nous présente notre vrai visage. Et l'enjeu de la pratique, c'est que on doit pouvoir agir en action, en posant des actes pour Dieu, en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que nous avons compris et entendu. Autrement, effectivement, on est comme quelqu'un qui regarde au miroir et qui oublie à quoi il ressemble, qui oublie son vrai visage. Si je fais négligemment le travail de Dieu. C'est comme si je me regarde négligemment. Si je le fais distraitement, c'est comme quand je regarde distraitement le miroir. Je ne vois pas grand-chose. Je ne me souviens plus. Je m'en vais. Et on peut oublier beaucoup de choses avec la parole de Dieu quand nous ne sommes pas, nous sommes légers, négligents, superficiels. Prenons le temps d'écouter la parole de Dieu et efforçons-nous d'appliquer ce que nous avons compris. Pas de chipoter, d'appliquer. Dieu a dit, ok, je le fais. D'appliquer la parole de Dieu. Ça peut arriver que dans mon zèle, j'applique mal la parole de Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver que dans mon zèle, je puisse comprendre et me précipiter à faire quelque chose sans que ça soit véritablement, vraiment ça qui était là. Mais l'attitude, elle est noble. L'attitude consiste à appliquer ce que la Bible dit, elle est noble. Mais ceux qui s'attardent, qui ne font que réfléchir, ça, ce n'est pas une bonne attitude. Mettre en pratique la parole de Dieu, ce que j'apprends, je le fais. Je le mets en action. Et il est fait allusion à cette idée-là que quand je fais comme ça, je suis comme quelqu'un qui a plongé mon regard, verset 25, dans la loi parfaite. J'ai plongé mon regard. Donc, je me suis complètement immergé là-dedans. Ça veut dire que j'ai pris le temps de méditer, de réfléchir. J'ai pris le temps. Ce n'est pas quelque chose que je fais légèrement, mais j'ai pris le temps. Je me suis arrêté, j'ai réfléchi. Réfléchir avec la parole de Dieu, c'est pas seulement dire « Oh oui, ça, le Seigneur me dit ceci et cela ». C'est aussi s'arrêter à un moment donné quand on a compris, prier. « Seigneur, je viens de comprendre ça dans ta parole. Je viens de saisir ça. Est-ce que tu peux m'aider à vivre ça vraiment ? Est-ce que tu peux m'aider à ce que ça reste dans mon cœur, que ça devienne quelque chose qui puisse me faire avancer ? Est-ce que tu peux m'aider à m'enseigner un peu plus sur ce que je viens de lire et comprendre ? Il faut toujours, pour aller de l'avant avec la parole de Dieu, prier, accompagner les lectures que je fais avec un temps de prière sur ce que j'ai lu. N'est-ce pas le psalmiste qui va dire « Ouvre mon cœur », c'est le psaume 119, « Ouvre mon cœur afin que je contemple les merveilles de ta loi ». C'est une prière que le psalmiste fait pour bien dire c'est que l'enjeu de la compréhension de la parole de Dieu. Je peux le contempler, mais j'ai besoin que Dieu me donne des yeux spirituels pour contempler sa parole. La parole et la prière, ensemble, pour avancer avec la pratique de la parole de Dieu. Il y a, dans le fait de pratiquer la parole de Dieu, plus qu'une simple dimension d'écoute. Il y a la dimension d'obéissance. La parole de Dieu, si elle ne me sert qu'à écouter, à m'enrichir avec une philosophie extraordinaire, alors elle ne sert pas à grand-chose. Vous savez qu'il y a un homme qui a lu la Bible tout entière, qui l'a analysée, qui y a réfléchi. Et vous savez ce qu'il a produit comme thèse de doctorat ? Le socialisme utopique. Ça a à voir avec la parole de Dieu ? Pas du tout. Et vous savez, en philosophie, combien ne sont-ils pas des philosophes qui ont puisé leur pensée dans une donnée biblique ? Voyez-vous ? Parce qu'ils ont lu, mais ils n'ont pas pratiqué, ils n'ont pas appliqué dans leur vie ce qui était écrit. Alors ce matin, je voulais vraiment partager cela avec vous. Vraiment prendre conscience que notre façon d'accueillir la parole de Dieu est importante. Notre façon d'être à l'écoute est importante. Notre façon de vivre la parole de Dieu est importante. J'accueille la parole de Dieu comme une graine plantée dans mon cœur que je dois faire grandir dans mon cœur. Et ce cœur est comme un jardin. Je dois veiller à ce que les mauvaises herbes n'empêchent pas la parole d'éclore en moi. Je dois, pour faire grandir la parole en moi, savoir faire silence devant la parole, l'écouter, tendre l'oreille, faire attention. Je dois apprendre à ne pas toujours avoir un point de vue, toujours une intelligence des choses. Je dois apprendre à parfois me laisser surprendre par la parole de Dieu. Je dois apprendre que je ne dois pas avoir les dispositions de cœur comme ceux des gens de ce monde, prêts à se révolter, prêts à contester, prêts à revendiquer, prêts à s'énerver. Je dois veiller à cela. Je dois veiller à mes pensées, à ma façon de penser. Je dois veiller à ma façon d'agir. Je dois veiller aussi à ne pas me mettre dans des situations qui vont dépasser, qui vont être hors de mon contrôle. À travers mes paroles, à travers certains actes, vous savez, vous qui conduisez les voitures, vous savez que parfois, vous avez parfois des gens qui viennent et qui vous font des têtes à queue, parfois ça énerve. Certaines personnes sont tentées de faire quoi? De poursuivre la personne, hein, pour lui dire, mais mon frère, moi j'ai vu une fois à Bruxelles, ça avait très très mal tourné. Parce que le gars, il a passé l'autre s'est énervé, il a passé, et puis ils sont sortis, et puis le gars, il a sorti un gros tuyau, il est allé assommer l'autre. Le débordement. Et quand on demandera à ce gars pourquoi tu as fait ça, parce qu'il m'a énervé. La colère a tellement été grande qu'il n'a plus su se contrôler. D'une part, nous avons à recevoir la parole de Dieu. D'autre part, nous avons à la pratiquer, à la mettre en pratique. Pas simplement l'écouter. Pas seulement l'intégrer en nous, mais aussi l'exécuter dans nos vies, le vivre dans nos vies, le vivre tel qu'il est écrit. Bien sûr, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, mais l'intention noble consiste à mettre en pratique, à agir. Vous voyez d'ailleurs, le verset final, il dit, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. C'est ça, se mettant à l'œuvre. C'est-à-dire, il agit, il pose des actes en fonction de ce qu'il a compris de la parole de Dieu. Celui-là sera heureux dans son activité. Il y a un bonheur qui nous est réservé dans la vie avec la parole de Dieu. Nous pouvons être heureux et comblés lorsque nous suivons la voie qu'il faut. Alors ce matin, c'est quelques réflexions que j'ai voulu mettre devant vos yeux, que le Seigneur vous aide à parcourir l'autre chemin, l'autre bout de chemin. Je ne vais pas prolonger. Normalement, le texte de la réflexion va plus loin parce que les deux autres versets montrent aussi les conséquences de la dimension de la parole de Dieu, mais Dieu permettra peut-être qu'on en parle prochainement, je ne sais pas. En tout cas, j'avais à cœur de partager ce que j'ai partagé avec vous ce matin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est la vérité. Seigneur, tu fais un chemin avec chacun de nous. Je prie que sur ce chemin, tu t'occupes de chacun de nous pour le faire grandir dans la connaissance de ta parole et que cette parole nous enrichisse et nous fasse gagner en maturité. Nous voulons avoir des chrétiens mûrs parmi nous, des hommes qui sont capables de bien s'occuper des autres, de les aimer, de leur donner du goût pour l'évangile et de les conduire aussi à devenir grands et aussi à grandir aussi. Nous en avons besoin, Seigneur. Et ta parole peut permettre cela. Accordons cette grâce. Merci Seigneur. Amen.